Donc, j'aimerais continuer ce soir avec une réflexion sur le deuxième fondement de la pleine conscience. C'est ce ressenti agréable, désagréable et neutre. C'est-à-dire les émotions. Le monde du ressenti. Et bien sûr, les émotions en elles-mêmes sont un mélange de la perception agréable, désagréable et neutre et de la pensée. Les émotions, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une merveille. Qu'est-ce qui fait que je suis émue? Par un beau paysage, par un enfant, par la musique, par une expérience spirituelle. Et une émotion bienfaisante, par définition, elle m'émeut parce qu'il y a une qualité d'unification. Il y a une rencontre dans l'amitié et la détente. Et que ce soit avec un paysage, quand tout d'un coup ça fait « Ah !» cette rencontre. Ou avec une peinture, ou une musique, ou un autre, avec une autre personne. Tout à coup, il y a une émotion qui vient parce qu'il y a rencontre. Et l'émotion perturbatrice, au contraire, c'est une émotion qui crée la séparation. Et c'est douloureux, ça fait mal. L'exploration du monde émotionnel, c'est tellement important parce que toute la politique, toute la vie sociale, le monde entier est construit sur notre monde émotionnel. L'attrait et le rejet. Et c'était touchant pour moi d'aller écouter à Verbier ces musiciens de haut niveau qui recherchaient à travers l'art cette universalité, ce non-moi d'une certaine manière, ce lâcher prise du moi. Il y avait un chef d'orchestre qui enseignait à 4 jeunes. Et ces jeunes arrivaient avec une certaine tension, ils voulaient faire bien, ils avaient leur violon, leur violoncelle, leur piano. Et quelque chose était mort. Ils collaient à leur partition et pendant une heure, ce chef d'orchestre ne cherchait qu'une chose. C'est à ce qu'il lâche, à ce qu'il lâche. Faire bien, faire mal, moi mes problèmes, ma combine, mon truc. Waouh, lâcher et laisser l'expression musicale se faire en eux. À un moment donné, il leur disait, c'était tellement beau, il leur disait, mais c'est pas vous qui jouez la musique, c'est la musique qui vous joue. Et je me disais, mais dans la méditation, c'est pareil. Tant que c'est moi, ma méditation, ma pratique, je ne laisse pas couler une énergie universelle, il n'y a pas ce lâcher prise du moi. Et c'était beau parce que les visages de ces jeunes qui étaient tout tendus au départ, peu à peu s'ouvraient à quelque chose qui circulait. Ça circulait. Et à un moment donné, et c'était beau parce qu'ils disaient, mais je ne peux pas vous le communiquer avec des mots, mais comment je pourrais vous le dire? Ah ben vous voyez, la musique, c'est un striptease émotionnel. Et je me disais, mais la méditation, c'est un striptease émotionnel. Si une émotion arrive et que je ne me dénude pas par rapport à cette émotion, il n'y a pas de vie. Il n'y a que le contrôle, cette circulation est comme stoppée. Et c'est vrai que il disait aussi, j'ai beaucoup appris là-haut, vraiment j'ai beaucoup appris. Il disait, à un moment donné, il prenait les partitions, c'était du Brahms, et puis il disait, vous voyez ça, c'est le 5% de la musique. Le 95%, c'est ce que vous en faites. Et c'est pareil avec le Bouddha Dharma. Ce que le Bouddha enseigne, c'est le 5%. Le 95%, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux être ouverte à recevoir pour pouvoir transformer en moi? Et avec l'exercice de la méditation, il y a une libération de l'emprise des émotions perturbatrices. Mais ça ne veut pas dire ne plus sentir. Je me posais la question avant de commencer à vous parler. Je me disais, mais j'ai quoi moi comme émotion là, juste maintenant? C'est des fois difficile à dire. Il y a ce respect, j'ai un profond respect pour le grand mystère qui fait que je suis là. Je pourrais dire. Fait que je suis là, c'est tellement étonnant, et que je partage ce dharma qui m'est si précieux, parce que il est transformateur, parce qu'il permet de respirer vraiment. Les émotions, la manière que nous avons de recevoir l'expérience au niveau émotionnel, agréable, désagréable ou neutre, c'est important de se souvenir que c'est subjectif, que c'est conditionné, c'est-à-dire que ça se passe parce qu'il y a tout un contexte, et que ça n'est pas moi. Cette référence à mes émotions, c'est pas vraiment une construction utile. Tout est construction. Mais est-ce que je peux me lier à des constructions qui mènent à l'ouverture du cœur, plutôt qu'à l'égocentrisme et la fermeture qui est ignorance, hein, qui est aveuglement. Je ne peux pas lâcher. Dans la méditation, on peut voir quand même, ça n'est pas un chemin linéaire. Au début, l'effort sage, il est difficile à trouver. Nous sommes crispés sur le fait de faire juste, de bien employer tout ce qui est à notre disposition. Il y a tous ces obstacles à rencontrer, ces facteurs de l'éveil à reconnaître, vraiment les reconnaître. Ils sont là, ils sont bienfaisants. Ils me permettent de lâcher ce moi qui est parfois dans la mauvaise volonté, qui a peur d'aller de l'avant. Et peu à peu, la confiance s'installe parce que nous apprenons qu'il y a parfois le chemin, parfois le fruit. Cette impermanence de l'aise, du fait d'être à l'aise ou d'être à l'étroit. Et au lieu de le prendre personnellement, je peux voir, ah, juste maintenant, ok, je suis à l'aise. Et il se passe quelque chose et, oh, ben juste maintenant, wow, je suis à l'étroit, émotionnellement. Le sens du moi est touché, il y a cette menace, le doute qui vient. Et parfois, nous touchons à la danse de la vie. à cette simplicité de l'instant. Et quand la simplicité de l'instant s'installe, je suis aussi prête à une rencontre émotionnelle douloureuse, sans être submergée, réactive. Et tout l'art de la méditation, ça n'est pas d'aller vers un idéal ou une exigence ou un contrôle ou ce qui serait sage et ce qui n'est pas sage. C'est la pleine conscience, c'est quelque chose qui s'apprivoise. Et la nommer, c'est très utile. Parce que nous savons très bien quand il y a absence de pleine conscience. Nous pouvons sentir. Et de nommer cette absence, c'est tout autant important que de nommer la présence de la pleine conscience. Et alors, peu à peu, nous entrons dans cette ouverture aux 10 000 joies et aux 10 000 peines. Qui est le monde conditionné. Je ne suis ni les 10 000 joies, ni les 10 000 peines. Peu à peu, je peux sentir ça, vraiment. Je vous relis la parole de Mozart, parce que je trouve tellement beau que ça ne soit pas seulement dans la méditation. Cette quête, c'est vraiment cette quête de l'abandon du moi, c'est vraiment une quête... C'est la quête de l'homme, c'est la plus grande beauté de l'homme de pouvoir lâcher ça. Et Mozart dit, la grande musique va chercher au fond de nous-mêmes le chagrin secret qui nous dévore. Joie et chagrin se fondent l'un dans l'autre et combinent si bien leur sortilège que la joie devient douloureuse et le chagrin exquis. Cette musique nous fait entendre une harmonie sereine et pathétique en même temps. Cette paix troublée par l'aveu d'une secrète nostalgie. Ce bonheur calme et large qui s'échafaude sur le drame maîtrisé, dompté. De pouvoir exprimer par la musique, les émotions humaines, c'est s'en libérer. C'est venir dans cette intimité et en même temps dans cet espace. Et dans la méditation, c'est au fond ce que nous cherchons à faire. Il y a le réel, c'est du karma. Lorsque je suis à l'étroit, je vais le dire comme ça, parce que c'est pas forcément parce qu'il y a une émotion telle que nous les entendons. Il n'y a pas forcément de la tristesse, de la colère, mais je me sens à l'étroit. C'est le réel. Nous n'avons, en tout cas je ne connais pas d'autres moyens de libération que de prendre connaissance de ce réel, tranquillement. Commencer dans le corps, commencer dans le cœur, commencer dans le mental. Et après, de soigner la réponse. Qu'est-ce que j'en fais? S'il y a la joie, l'émerveillement, la simplicité, ou la fraternité, ou l'interconnexion, je le veux bien et j'en jouis pleinement. Et s'il y a la peur ou la colère ou l'isolement ou la dépression, la tristesse, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? D'une certaine manière, l'essentiel, c'est de poser la question. Il y a ça, ah, qu'est-ce que j'en fais? Parce que du moment que je questionne, le corps et l'esprit se préparent. C'est Ajahn Chah qui disait, nous ne pourrions pas poser une question si nous n'en connaissions pas déjà intuitivement la réponse. Lorsqu'une émotion nous submerge, je ne peux pas questionner qu'est-ce que j'en fais. J'y suis. C'est donc un soin à donner à l'expérience. Et je le redis parce que nous sommes vérifiés toujours plus profondément l'ombre, ce qu'on appelle l'expérience de l'ombre, ces émotions perturbatrices, l'ombre est utile. Ça n'est pas l'ennemi à abattre. C'est au contraire l'aiguillon qui nous fait avancer. C'est l'ombre qui nous vérifie, parce que c'est facile de faire des théories. Les constructions conceptuelles, il n'y a rien de plus facile. On bâtit le monde avec des constructions mentales. Mais le corps et l'émotion, ça, c'est du karma. Nous ne pouvons pas le contrôler. Nous ne pouvons pas le contrôler. Ça émerge tout d'un coup. Waouh, c'est là. C'est le résultat d'une loi de cause à effet qui est mystérieuse, mais en tout cas, c'est peut-être que tout est création, donc ce que je vous partage là est création, mais pour moi c'est une création très utile de voir que ça n'est pas moi qui suis en train de vous enseigner, ça n'est pas vous qui êtes en train d'écouter, c'est un karma. C'est une loi de cause à effet qui fait que, ok, juste maintenant, ce corps, cet esprit, il est là, il parle. Et c'est pareil si je me mets en colère ou si je suis touchée et triste par quelque chose que quelqu'un m'a partagé. C'est cette loi de cause à effet qui fait que le réel est là. Et si juste maintenant, pour moi, le réel est touchant et bienfaisant, par moments, il est différent. Et dans ce soin aux émotions perturbatrices, c'est tellement important de faire la différence entre l'expression de l'émotion perturbatrice est la reconnaissance à l'intérieur du corps et de l'esprit de cette énergie. Quand le Bouddha dit « fais le bien, évite de faire le mal », il parle vraiment de cette expression-là. Parce que quand j'exprime ces émotions négatives, c'est du karma et je vais devoir le purifier à nouveau. Donc, il y a une retenue claire à avoir dans le sens de la bienveillance et de l'éthique et du respect. Pour soi, pour l'autre aussi, mais pour soi avant tout. Mais lorsqu'il dit « cultive ton esprit », il dit les trois choses, hein. Fais le bien, évite de faire le mal, cultive ton esprit. Et là, c'est tellement important de sortir du bien et du mal et de pouvoir s'ouvrir à la totalité de ce qui émerge dans l'instant. Et quand quelque chose vient, et surtout de ne pas les créer, hein, après je parle des émotions, et puis après tout le monde croit qu'il faut absolument avoir des émotions pour avancer spirituellement, c'est pas le cas. Ce qui est important pour avancer spirituellement, c'est de respecter l'instant. Et quand l'instant est simple, oh, il est simple, tout bon. Mais quand tout à coup quelque chose émerge, cultive ton esprit, ma doudoune. C'est Tilopa qui dit « N'ayez aucune crainte, aucun doute. » de rester dans les choses telles que vous les fabriquez. Elles sont le cœur même de la vacuité et de l'éveil. Donc, d'une certaine manière, si vous restez dans les choses que vous venez de fabriquer, en pleine conscience, bien sûr, vous êtes libéré. C'est difficile à voir, hein? Et pourtant, c'est vrai. Lorsque je fais acte d'ouverture à l'émotion perturbatrice et d'acceptation et de lâcher prise et d'humilité, même si l'expérience est terriblement désagréable, je suis dans l'éveil. Donc l'important, c'est de bien vouloir voir. Si je ne veux pas voir, ben je me prive d'un cadeau inestimable. Et c'est vrai que il y a quelque chose de douloureux à voir ces émotions perturbatrices. Il y a quelque chose d'effrayant parce que ça touche à la vie et à la mort. Il y a cette vulnérabilité, cette fragilité du cœur humain qui a tellement besoin d'être aimé et reconnu. Et apprécié. Et alors lorsque nous sommes blessés, la réactivité est forte. Il peut y avoir la violence, la haine peut-être, ou alors la tristesse, le désespoir. Et le système de protection est bien explicable. Nous protégeons cette vulnérabilité et cette fragilité. Et quand nous justifions la justification, c'est cet essai dramatique d'une certaine manière, parce que ça ne fait que repousser le problème. Et c'est facile de justifier, j'ai vécu ça, alors c'est pour ça que, bon ben, oui, d'accord, puis quoi? Ok. Alors le voir un peu, oui. Mais après, le réel, c'est quoi? C'est pas que moi, je suis quelqu'un qui. Non. Ça, c'est une construction. Et c'est une construction effrayante. Parce que j'ai un peu de violence ou trop de contrôle ou que je suis facilement triste, moi, je suis quelqu'un de. Wow! C'est absolument faux. Je suis quelqu'un de quelquefois. Quelquefois, cette énergie s'exprime. C'est une autre manière de le dire qui est beaucoup plus sage. Oui, quelquefois, cette énergie-là vient, mais souvent, il y a autre chose. Derrière les émotions perturbatrices, il y a l'aveuglement. Et l'aveuglement ne demande qu'une chose, c'est la compassion. Et quand en moi ou dans l'autre, il y a cette forme de confusion, parce que bien sûr, avec l'émotion perturbatrice, vient la confusion mentale, qui tente maladroitement de sauver sa peau. Est-ce que nous pouvons questionner? Mais quelle est l'expérience juste maintenant? Et si l'attention pure fait son travail de reconnaissance, si je peux connaître, alors une émotion qui est reconnue, elle perd son pouvoir. Elle perd une grande partie de son pouvoir. C'est pour ça qu'on appelle ce chemin un chemin de connaissance. Et le sens du moi, la mise en activité de notre système de défense vient de l'orgueil, et l'orgueil dans le beau sens, hein, le sens du moi qui veut faire bien. En fait, je veux faire bien. Derrière tout ça, il y a cette immense volonté de faire bien. Mais peut-être de faire trop bien. C'est je qui veux faire bien. Et alors, il y a un manque d'humilité. Il y a de la dissimulation, la peur du regard de l'autre, de la prétention. Ce ne sont pas des tares, ce sont des énergies. L'autre jour, je vais vous partager quelque chose. Je vais me faire très mal voir, mais ça fait rien. L'autre jour, je trouve que je suis tellement chouchou. Je m'étais servi, je trouvais très bon le repas de l'or. Alors je m'étais servi mon couscous, mes légumes. Bon, puis je suis allée me resservir. Puis je prends mon assiette, puis je regarde, puis je me dis, j'ai un peu pris trop. Est-ce que les autres auront assez? Ils vont voir que j'ai beaucoup pris. Puis je me suis vite pris deux courgettes que j'ai mangées dans la chambre, là, à côté, pour qu'il y ait un peu moins dans mon assiette. J'ai fait tout ça en pleine conscience, en me disant vraiment, mais ma chouchou, hein. Mais je me suis dit, bon, ben, c'est le regard, la peur du regard de l'autre. J'aimerais qu'on voit comme j'ai pris très peu. Et il y avait vraiment, en même temps, une pleine conscience très éveillée. Mais ce petit doudounet, mais on est des doudounets, vous avez remarqué comme on est des doudounets. Et c'est intéressant de voir comment nous passons de la non-existence à l'existence. Et comment, lorsqu'il y a identification, ça peut être dramatique. Enfin, dramatique. Disons, l'implication en termes de souffrance peut être fort. C'est moi-même qui me mène dans des abîmes de détresse. Et quand je le fais pour moi, je peux le faire pour l'autre. Il y a d'abord ce sentiment de n'être pas assez. Je ne suis pas assez, je dois être plus. Le regard de l'autre, ça fait que je n'assume pas complètement ce corps et cet esprit, je ne suis pas à la hauteur. Il y a un vague sentiment de non-existence. Et alors, ça engendre, cette peur engendre une réactivité. Je deviens trop, du coup je deviens trop. L'existence me fait entrer dans la réactivité. Il y a la peur et la réactivité qui fonctionnent ensemble. Et le Bouddha a parlé de ça, cette tanha, la soif, cette soif de non-existence. C'est pas vraiment une soif, mais quand même, oui. Je veux pas être vu, je suis pas bien, je suis pas, je me fais petit. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et puis j'ai pas envie d'être petit. Alors, pof, ça y est, tout d'un coup, je deviens trop. Parce que je me sens, du fait que je n'assume pas ma place d'une certaine manière sur cette terre, alors je me sens tout à coup envahi. L'autre m'envahit. Il prend une place que je laisse. Et c'est un cercle vicieux, c'est le cercle vicieux de la peur et de la réactivité. Après, je culpabilise parce que j'ai fait je sais pas quoi. Alors ce sens du moi devient très fort et alors c'est contre moi que j'en veux. Ça c'est pas vraiment la vie, hein. Ça c'est la mort. C'est la non-reconnaissance de l'instant, la perte de conscience avec l'universel, avec la source. Et c'est ok, c'est ok. Ça se répétera tant que je n'aurai pas fait œuvre de connaissance. Donc, ayons du courage. Osons faire notre striptease émotionnel face à nous-mêmes. Tout ce travail de soins à l'ici et maintenant. Hier, nous parlions du corps, ce soin au corps. Aujourd'hui, nous parlons de l'émotionnel, lorsque quelque chose émerge au niveau du cœur, qu'il y ait le respect, que ce soit agréable ou désagréable. Et demain, nous parlerons du soin au monde conceptuel, à tout ce qui est lié à la pensée. Ce soin n'a qu'un but, c'est le lâcher prise. Et le lâcher prise est possible parce que je comprends. Et qu'est-ce que je comprends? Mais qu'est-ce que je comprends dans mon corps? C'est que toutes les émotions sont ok pour autant que je les rencontre ici et maintenant dans le corps. Moi, au niveau clair et concret du ressenti, où c'est que c'est? Dans quel endroit du corps exactement? C'est marrant parce que en écrivant mon talk, tout d'un coup, je me dis « Ah, mais tiens, souffrance et sagesse, ça commence par la même lettre. » Une souffrance conscientisée devient une sagesse. Une souffrance ressentie. Et avec tous ces objets de conscience, lorsque nous pratiquons suffisamment, quelque chose passe de ma tristesse, ma peur, mon problème, ma frustration, mais aussi ma concentration, ma sagesse, à « Waouh, il y a ça ». Ma méditation va bien, ma méditation ne va pas bien, c'est quoi ça? Donc, d'une certaine manière, dans ce travail-là, nous accouchons de notre sagesse intérieure. C'est un travail, l'accouchement. C'est Maître Eckhart qui dit, on a de la chance parce qu'au niveau universel, nous accouchons tous. Il dit, l'homme a deux naissances. J'adore cette parole de Maître Eckhart. L'homme a deux naissances, l'une au monde et l'autre hors du monde, c'est-à-dire spirituel, en Dieu. Aussi longtemps que tu souffres dans ton cœur pour quoi que ce soit, fût-ce même pour le péché, ton enfant n'est pas né. Ne tombe pas pour autant dans le doute. Que tu souffres pour toi ou pour ton ami, si l'enfant n'est pas né, il est cependant prêt de naître. Il est parfaitement né lorsque le cœur de l'homme ne souffre plus de rien. Alors, l'homme a l'être et la substance et la nature et la joie et la sagesse et tout ce que Dieu a. Vous sentez que vous l'avez juste maintenant. Lâcher prise du moi, c'est une ouverture du cœur. C'est une tendresse, c'est une bienveillance. C'est quelque chose de relativement neutre, ni très agréable, ni très désagréable, mais tellement bon. Et c'est qui nous sommes déjà totalement. Il s'agit juste de le découvrir. D'enlever les voiles. De ne plus mettre le moi au centre. C'est un... Je ne sais plus qui c'est, je crois que c'était un gars qui travaillait avec Amon Chardon, un psy qui disait « La différence entre une émotion et une sagesse, c'est que dans l'émotion, on a oublié qu'on faisait partie du tout. Et on s'oriente dans le but du maintien de l'ego. » C'est mon chemin. On oublie qu'il n'y a aucun chemin à moi. C'est un chemin universel. Et la route prend différents... Il y a plusieurs endroits pour aller, plusieurs doigts qui pointent à la lune, plusieurs chemins pour y aller. Mais un chemin qui est universel, c'est celui du cœur, de la tendresse, de l'ouverture. Et quand on a demandé au Bouddha, mais que représente la compassion par rapport à la sagesse? Le Bouddha a dit, la compassion c'est le 100% du chemin. La compassion c'est l'expression de la sagesse sur terre. Le mot sanskrit bodhicitta signifie cœur noble ou éveillé. Tout comme il y a du beurre dans le lait et de l'huile dans la graine de sésame, le point vulnérable qu'est la bodhicitta est présent en vous et en moi. Il équivaut jusqu'à un certain point à notre capacité d'aimer. Peu importe notre détermination à pratiquer, le manque de bienveillance, l'égoïsme ou l'avidité, le cœur authentique de la bodhicitta ne peut pas se perdre. Il est ici, dans tout ce qui vit, jamais gâché et parfaitement entier. Je vous propose qu'on prenne quelques minutes en silence.